découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Comment pratiquer l'agriculture tout en protégeant l'environnement? C'est les sujets que nous abordons aujourd'hui dans cette émission Okapi Service avec Jean Desdieux Minengou, environnementaliste. Vous savez, l'agriculture sur brûlis, la pratique de feux de brousse en toute saison pour enrichir les sols et l'utilisation de certains engrais chimiques et pesticides nuisent à l'environnement. Cela a aussi un impact négatif sur la santé des consommateurs, d'après les informations reçues. Voilà pourquoi les spécialistes encouragent les pratiques agricoles qui n'affectent pas l'environnement ni la santé de l'homme. Alors, quelles sont ces bonnes pratiques? On va les découvrir dans cette émission avec Jean Desdieux Minengou, expert en environnement. Encore une fois, bonjour Jean Desdieux.
Bonjour Jody.
Alors, dites-nous, comment pratiquer l'agriculture tout en protégeant l'environnement?
Merci Jody. Je crois que vous l'avez déjà dit, aujourd'hui beaucoup de spécialistes, beaucoup d'organisations internationales de protection de l'environnement et de l'agriculture pense qu'il faut changer la manière de réaliser la production agricole tout en prenant en compte la protection de l'environnement. C'est quoi ce que vous voulez dire? C'est que vous voulez nous ramener aujourd'hui vers ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire réaliser la production agricole tout en protégeant l'environnement.
L'agroécologie.
Mais l'agroécologie ne vise pas seulement la protection de l'environnement. L'agroécologie a également une vision sociale. L'agroécologie a une vision économique, l'agroécologie a une vision environnementale, mais aussi, je m'excuse, l'agroécologie a une vision politique. L'agroécologie que nous parlons aujourd'hui, je dis, c'est l'opposé de ce qu'on appelle l'agriculture industrielle, l'agriculture intensive, qui est le fruit de ce qu'on appelle la révolution verte. La révolution verte, je dis, comme vous le savez, c'était une politique basée sur trois éléments essentiels. Le premier élément de la révolution verte, c'était l'utilisation des variétés à haut rendement. Il fallait mettre à la disposition des producteurs, à la disposition des agriculteurs, des variétés qui présentent des rendements le plus importants. Et dans le domaine de l'élevage, mettre sur pied ou mettre à disposition des éleveurs, des races animales, qui se développe rapidement ou soit qui peuvent donner un rendement à l'abattage le plus important. Le deuxième élément qui caractérisait la politique de la révolution verte, je dis, c'était l'utilisation des intrants chimiques. Nous voulons parler des engrais et nous voulons parler des pesticides. Donc, selon les promoteurs de cette politique de la révolution verte, il n'était pas possible de produire sans toutefois penser aux engrais chimiques. Il n'était pas possible de produire sans penser à la protection des cultures avec l'utilisation de ce qu'on appelle les pesticides de synthèse. Et la troisième caractéristique de la politique de la révolution verte aujourd'hui, c'était l'irrigation et l'utilisation des machines agricoles. Alors, quel est le bilan que nous pouvons faire de cette politique qui est née vers les années 1940 jusqu'à aujourd'hui? Le bilan aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il est un peu négatif. Le bilan n'est pas très positif. Négatif sur le plan
social. L'agroécologie n'est pas encore pratiquée ici chez nous, c'est ce que vous voulez dire?
On va y arriver aujourd'hui. Je termine avec tout ce qu'il y a comme politique, le système agricole actuel et que vous êtes en train de décrier avec la destruction de l'environnement. Donc sur le plan social, le bilan a été négatif, sur le plan économique, mais également sur le plan environnemental. Sur le plan social, je dis, la révolution verte, c'est-à-dire l'intensification du système de production à travers le monde, n'a pas éradiqué la faim. L'insécurité alimentaire frappe près d'un milliard de personnes à travers l'humanité. Ce qui veut dire que sur ce plan, la révolution verte, bien sûr, qui a joué un rôle important à augmenter la production agricole, n'a pas été capable aujourd'hui, dans les contextes actuels, d'éradiquer la faim. Près d'un milliard, comme je viens de dire, de personnes à travers le monde souffrent de l'insécurité alimentaire. Toujours sur le plan social, je dis, La politique de la révolution verte, basée sur l'intensification des systèmes de production, l'utilisation des engrais, des pesticides et machines agricoles, n'a pas permis la création d'emplois dans les secteurs de l'agriculture. Parce que le fait d'une utilisation intensive de machines dans les systèmes de production, très peu d'emplois doivent être créés. Les études montrent, pour 100 hectares de terre destinés à la production agricole dans les systèmes tout à fait intensifs, je dis un seul emploi viable n'est créé. Donc c'est pour vous dire que si ce système sur le plan social, nous pouvons dire, il y a énormément beaucoup d'éléments, mais je dois être très bref, il y a beaucoup d'éléments sur le plan social qui montrent que ce système n'a pas. Sur le plan économique, le système également d'intensification de l'agriculture né de la révolution verte n'a pas été capable d'élever le niveau de vie des agriculteurs. Les agriculteurs sont de plus en plus dépendants des entreprises productrices des intrants agricoles. Donc ici, ça
c'est
va...
C'est le cas aussi dans notre pays.
Pas très développé ici, mais souvent dans beaucoup de pays ailleurs, en Europe, c'est difficile de réaliser la production agricole si vous n'allez pas auprès des entreprises pour acheter des semences. Vous devez aller acheter des semences. Vous devez aller auprès des entreprises pour acheter des intrants. Donc les agriculteurs ne sont plus autonomes.
Oui. Alors, dans notre pays, alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'agroécologie est pratiquée? On pratique l'agriculture tout en protégeant l'environnement?
Oui, je dis, en République démocratique du Congo, on a des systèmes de production. Vous avez ce qu'on a appelé toujours le système traditionnel qui fait partie de l'agriculture familiale. Et vous avez également certaines entreprises, certains groupes plantaires qui pratiquent ce qu'on appelle l'agriculture industrielle. Les deux systèmes, comme je venais de le dire, que ce soit ici en République démocratique, que ce soit un autre système traditionnel, que ce soit les systèmes industriels, ces deux systèmes n'ont pas été capables d'éradiquer également la faim. Beaucoup de gens souffrent de la famine en République démocratique du Congo.
Alors, la production agricole est faible.
Elle est très faible, elle est minime, elle n'est pas capable aujourd'hui de jouer un rôle important pour amener les gens à très bien manger. Alors, l'agriculture familiale qui est basée, comme vous venez de dire, sur les systèmes de culture sur brûlis, n'est plus viable aujourd'hui avec l'enjeu du changement climatique, avec la dégradation des terres agricoles. Ce système n'est plus capable d'assurer la sécurité
alimentaire. C'est un système qui détruit l'environnement.
C'est un système qui détruit l'environnement, c'est un système qui ne permet plus de réaliser des productions agricoles acceptables. Donc, c'est un système qui n'a pas... Et le système industriel qui est pratiqué par des entreprises, surtout quand vous voyez ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, là, on est obligé d'utiliser les intrants et autres. Donc, ce système a détruit,
détruit les également
forêts,
l'environnement,
les forêts, les savanes, les prairies, mais également les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est au niveau de l'environnement. Vous avez parlé de la santé.
J'arrive. On a le temps d'accueillir des auditeurs. Dieudonné Tchoumba, vous êtes à Arou, Christophe Bokessé à Kinshasa. Dieudonné, on commence avec vous. Bonjour.
Bonjour, c'est bien moi, Dieudonné Tchoumba, à partir du territoire d'Arou.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Du centre commercial de Kandoui.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Dieudonné?
Moi, je voudrais savoir quels sont les mécanismes pour permettre à Dieu, afin de permettre aux agriculteurs d'avoir un bon rendement pour éradiquer la famine au niveau familial.
D'accord. Christian Bokessé de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les fidèles de la Radio Capi.
On vous écoute, Christian.
Oui, j'ai deux préoccupations. Je voudrais poser la première préoccupation est celle-ci. Je voudrais que l'invité nous dise qu'est-ce qu'on doit faire lorsque... Parce que nous, ici à Kinshasa, dans les sites, par exemple, de Limété, Mombele, tout ça... On n'a pas de forêt, mais nous pratiquons l'agriculture. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une performance assez suffisante? Parce que lorsqu'on va élaborer, la deuxième préoccupation est de savoir quel comportement devons-nous afficher lorsque nous allons pratiquer les différentes cultures. Par exemple, nous bénéficions des semences auprès de la FAO, mais ces semences-là ont certaines caprices. On ne sait pas comment se retrouver sans faire appel aux ingénieurs de la FAO. Qu'est-ce que nous devons afficher et quel comportement devons-nous afficher pour ces exigences-là?
Bien. Aimé Minakou depuis Dungu, bonjour.
Oui, allô, bonjour et bonjour à l'invité.
Bonjour, on vous écoute.
Oui. J'ai une question de savoir, j'aimerais savoir comment peut-on protéger la vie contre les phénomènes naturels. Si je peux citer les vents, il y a des insectes qui viennent ronger. Par exemple, lorsqu'on sème, il y a des insectes qui viennent déranger l'agriculture. Comment peut-on protéger l'agriculture contre ces phénomènes-là naturels? Voilà mon unique question aujourd'hui.
Bien, merci. Jean des Dieux.
Très bien, on commence par la question de Méminako qui dit quelles sont les méthodes de protection qu'il faut appliquer pour protéger votre culture contre les attaques des insectes, ça peut être également les maladies. Et je dis, dans l'agriculture conventionnelle, dans l'agriculture industrielle qui est née de la politique de la révolution verte, il faut utiliser ce qu'on appelle les pesticides de synthèse. Il faut utiliser les insecticides qu'on vend dans les magasins. Mais aujourd'hui, dans la pratique agroécologique, on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle les biopesticides. C'est-à-dire de produits naturels qui peuvent être utilisés pour la protection de votre culture ou de votre plantation contre les attaques des insectes, tout comme les attaques des maladies. Ça, et dans les différents coins, les universités, les instituts supérieurs de la République démocratique du Congo font un travail de qualité.
Alors, on dit que les pesticides détruisent l'environnement, d'où il faut recourir aux biopesticides qui n'ont aucun impact négatif sur l'environnement.
Bien sûr, je dis, vous avez parlé de la santé des consommateurs ici.
Oui.
L'effet d'utilisation accentuée des pesticides de synthèse dans la production agricole, ça détruit la santé de beaucoup de gens. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de faire un stage dans ce qu'on appelle la Fédération Wallonne de la Pomme de Terre en Belgique. Pour pouvoir réaliser la culture de cette plante, aujourd'hui, de la plantation jusqu'à la récolte, on fait 25 pulvérisations avec des produits différents. Et ça, je dois vous dire, aujourd'hui, la qualité du produit est mise en cause.
C'est 25 pulvérisations.
25 pulvérisations avec 25 produits différents. Ça, je l'ai dit. Moi, j'ai fait mon stage à la Fédération Wallonne de la Pomme de Terre. Vous êtes sûr que je dis ce produit est de très bonne qualité sur le plan sanitaire? Non. C'est pourquoi il y a énormément beaucoup de problèmes de santé. Bon, il y a beaucoup de gens recourent à des trucs, à des lois finalement, et au lieu de chercher à régler les véritables problèmes. Mmh. Donc, sur le plan de la protection, j'ai dit, on peut utiliser
les biopesticides.
Il y a également notre ami Christian qui a parlé des semences. Nous avions dit que jeudi, la politique de la révolution verte était basée sur l'utilisation des variétés à haut rendement. C'est toutes ces variétés que les organisations internationales, que les firmes mettent sur le marché à la disposition. Or, les gens oublient que l'utilisation des variétés améliorées suppose une bonne technique de production. Ces variétés sont très exigeantes en ce qui concerne l'eau. Ces variétés sont très exigeantes en ce qui concerne l'entretien. C'est que de nombreux agriculteurs en République démocratique du Congo, tout comme dans beaucoup de pays africains, ne sont pas capables de le faire. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, les variétés qui sortent des usines, les variétés qui sortent des grandes firmes, ne sont pas capables de les adapter dans le contexte de cet environnement qui est en pleine mutation. Ce sont des variétés, à mon avis local, qui sont très résilientes au changement climatique, qu'il faut promouvoir. Et là, c'est là où nous appelons toujours le pouvoir public congolais, de ne plus toujours considérer l'agriculture comme des simples techniques de production. Parce qu'ici, dans beaucoup de pays, même en Afrique, on voudrait parler de politique agricole. Ah non, bon, voilà, il faut acheter quelques machines. Non, l'agriculture devrait être d'abord pensée comme une politique qui a des objectifs sociaux, qui a des objectifs économiques et qui a des objectifs environnementaux, voire même politiques. Et c'est dans ces conditions, je vous dis, quand vous avez défini tous ces objectifs, vous mettez en place les techniques qui vous permettent d'atteindre les objectifs sociaux, économiques et environnementaux. Mais si on prend seulement les techniques pour arriver à réaliser la production, pour relancer la production agricole, c'est un échec lamentable aujourd'hui. Donc voilà la réponse que je peux donner à notre ami Christian.
Il parle des semences à haut rendement. La FAO donne des semences, mais ça n'a pas toujours de bons résultats. Et Dieu donné, il revient également sur le rendement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon rendement?
Ok, aujourd'hui nous parlons de l'agroécologie, c'est-à-dire l'agriculture qui doit respecter l'environnement, l'agriculture qui doit être capable de créer des emplois au niveau local, l'agriculture qui doit rendre les agriculteurs indépendants sur le plan économique et l'agriculture qui doit protéger l'environnement.
C'est ça l'agroécologie.
C'est ça l'agroécologie. Donc l'agroécologie, je dis, ne se limite pas à des simples techniques de production telles que l'agroforesterie, l'agriculture de conservation, vous avez les cultures en couloir, l'agro-sylvopastoral. Non, en dehors de l'aspect environnemental, l'agroécologie, comme je venais de dire, a un aspect social, a un aspect économique, a un aspect environnemental et voire même politique. Et ça, c'est très important. Si nous voulons aujourd'hui faire la promotion de l'agroécologie en République démocratique du Congo, je dis, nous devons penser ces systèmes comme en tant que politique dans le domaine de l'agriculture, mais pas en tant que technique. Si nous ramenons l'agroécologie vers les techniques qu'il faut mettre en place pour pouvoir réaliser la production agricole. Je dis, comme l'histoire nous apprend qu'une chose qui s'est passée une fois, beaucoup de choses qui s'est passées deux ou trois fois, oui. Nous allons revenir sur le même résultat.
Alors, donc, pour aujourd'hui arriver à pratiquer l'agriculture et en même temps promouvoir l'environnement, protéger l'environnement, alors allons-y point par point. Mmh. Et par où faut-il commencer? Qu'est-ce qu'il faut commencer par faire?
Ok, je venais de le dire. Le premier élément à faire, si la République démocratique du Congo veut se lancer vers ce qu'on appelle la transition écologique de notre système de production, eh bien, nous devons d'abord faire de l'agroécologie comme une politique agricole qu'il faut mettre en place en République démocratique du Congo. Une politique, je dis qu'il y a des objectifs que je venais de dire, les objectifs sociaux, les objectifs économiques, les objectifs environnementaux, les objectifs même politiques. C'est dans ces conditions que nous devons mettre sur pied les techniques qui vont nous permettre de mener notre agriculture vers une transition écologique et d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fondés. Et parmi les techniques qu'on pouvait mettre en place, vous avez ce qu'on appelle l'agroforesterie. Ça, c'est un système qui est beaucoup plus pratiqué au plateau de Bateke avec le projet IBI, avec Kadim et beaucoup d'organisations internationales qui travaillent. Nous-mêmes, nous avions fait un projet sur l'agroforesterie ici et dans les zones périphériques de Kinshasa, mm-hmm. avec le programme des Nations Unies pour le développement. Donc, ça, c'est un projet intéressant où...
Comment ça fonctionne l'agroforesterie?
L'agroforesterie, ça veut dire, je dis, réaliser l'agriculture en association avec les arbres. Vous avez par exemple, justement, au plateau des Bateke, les arbres qui sont beaucoup plus appliqués et pratiqués, ce sont les acacias. Mais aujourd'hui, les études importantes sont en train d'être réalisées dans beaucoup d'instituts, dans beaucoup d'universités de la République démocratique du Congo, pour trouver les essences locales à croissance rapide qui peut être intégrée dans l'agroforesterie communautaire.
Et en quoi l'agroforesterie permet de protéger l'environnement?
Très bien, je dis, l'agroforesterie permet de protéger l'environnement sur plusieurs plans. Le premier élément, je dis, lorsqu'on fait l'agroforesterie, il y a une réduction importante d'utilisation des engrais chimiques. Ce qui veut dire que la gestion de la fertilité du sol, elle est assurée par les arbres qui se trouvent dans votre parcelle, dans votre champ. Ça, c'est déjà un élément important. Mmh. Le deuxième élément important de l'agroforesterie en matière de protection de l'environnement, je dis, c'est que lorsque vous appliquez cette technique, les attaques des insectes et des maladies ne sont pas très importantes dans votre exploitation.
Donc ça veut dire qu'on crée une forêt artificielle.
Donc,
et sous les arbres, on pratique l'agriculture.
Ça veut dire, je dis, vous créez un environnement favorable à la production agricole qui minimise davantage l'entrée de produits chimiques dans les systèmes de production. Et dans ces systèmes, comme vous avez installé les arbres dans votre plantation...
Les arbres vont fertiliser le sol.
Bien sûr, pas seulement la fertilisation, ça va permettre de conserver de l'eau dans les sols. Avec tout ce que nous avons comme perturbation climatique, mmh. vous avez aujourd'hui, il pleut, le lendemain, vous avez de fortes chaleurs et toute l'eau qui se trouvait au niveau du sol est répartie au niveau oui. de l'atmosphère avec oui. l'évaporation.
Oui.
Donc, lorsque vous faites ce système, il y a énormément beaucoup d'avantages sur le plan...
L'eau garde, disons, les sols gardent une certaine humidité
voilà.
à cause de la couverture végétale.
Bien entendu, je vous dis.
Oui.
Voilà.
Et quels sont les autres avantages que cela offre?
Bon, il y a énormément beaucoup d'avantages en termes d'augmentation de la production agricole. Les agriculteurs trouvent des intérêts par rapport à ça. Et sur le plan économique aujourd'hui, comme les agriculteurs ne vont plus aller vers les grandes entreprises qui monopolisent les marchés des intrants agricoles, mais les agriculteurs vont réaliser ce qu'on appelle les bénéfices par rapport au travail qu'ils sont en train de faire. En dehors de l'agroforesterie, je dis, vous avez d'autres pratiques agroécologiques qui peuvent être utilisées pour la production agricole.
Lesquelles?
Vous avez ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. C'est un système de production aujourd'hui basé sur trois éléments importants. Le premier élément, c'est le travail minimum du sol. Donc, dans le cas de l'agriculture de conservation, on ne va pas vers un travail très intense de travail de retournement du sol. Surtout quand on se retrouve dans les régions où le sol se trouve déjà fragile, comme les plateaux de Bateke, les plateaux du Kwango et une bonne partie du Kasaï. Et donc, c'est ce système, à mon avis, qu'il faut. Le deuxième élément qui caractérise l'agriculture de conservation, je dis, c'est la couverture permanente du sol. Et là, on utilise les plans de couverture tels que les stylosanthès, tels que les Mukuna Priens. Vous avez également les Puraria qui peuvent être utilisés pour couvrir le sol de façon permanente, mmh. assurer la fertilité du sol, garder l'humidité. Et aujourd'hui, je dis, dans nos régions, il y a une grande menace, c'est le développement des adventices, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Donc, le fait de couvrir les sols de façon permanente.
Avec quoi? Vous avez cité des noms techniques, on a pas bien compris c'est
oui,
de quoi
vous il s'agit. Vous avez des plantes de couverture qu'on peut utiliser, vous avez les
rameaux, et certains utilisent les rameaux pour couvrir les sols.
Oui, ça peut être utilisé dans des petites superficies, lorsqu'on fait par exemple le maraîchage ou soit dans une pépinière, mais lorsque vous avez 2-3 hectares, c'est difficile d'aller chercher des rameaux pour venir couvrir. Mmh. C'est à ce moment qu'il faut aller vers ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. On utilise des espèces comme le moukouna. On utilise des espèces comme les stylos et on utilise des espèces comme les pararias pour pouvoir couvrir le sol et maintenir la fertilité du sol pour réaliser la production agricole.
D'accord. Mave Kisambika nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour aussi à tous les auditeurs qui sont branchés présents dans la radio Gapi.
On vous écoute, Mave.
Merci beaucoup, aujourd'hui. J'aimerais demander un autre invité. Je sais généralement que l'agriculture dite naturelle, qui est beaucoup pratiquée dans notre pays, la RDC, là, on dit que elle expose aussi l'environnement et aussi le consommateur à des divers dangers. Il y a une question que je voudrais poser aussi à nos invités par rapport à ça, comparativement à celle qui est, qui est appliquée ou ça s'est situé dans d'autres pays émergents. J'ai testé le cas d'Europe. Il y a certains pays d'Europe qui pratiquent la nourriture industrielle. Moi, je ne sais pas comprendre que celle de notre pays qui est appliquée dans notre pays expose aussi les gens au danger. J'aimerais savoir, entre les deux, celle qui est appliquée chez nous et celle dite industrielle, entre les deux, laquelle est la plus exposante qui pose beaucoup de problèmes sur la santé et aussi à l'environnement des populations. Et aussi, comment les agriculteurs congolais peuvent s'entendre pour bien éradiquer, et comment mettre loin des dangers qui sont permanent par rapport à ce que nous apprenons qu'il y a des dangers qui sont disponibles par rapport aux engrais qui sont appliqués aussi. Lorsqu'on brûle les champs, l'environnement, donc soit la population est exposée aux dangers. Et comment alors les agriculteurs congolais peuvent pratiquer, avoir des mécanismes appropriés pour éradiquer tous ces dangers qui sont exposés?
Bien, merci. Polipe, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
On vous écoute, Polipe.
Ah oui, moi j'ai une question à la fois. La première préoccupation, l'invité nous a parlé de l'agroécologie, c'est-à-dire, en même temps on pratique l'agriculture et on protège également l'environnement. Mmh. Alors, chez nous avons la forêt. Nous n'avons pas de savane, nous avons la forêt où il y a beaucoup d'arbres. Il n'y a pas moyen de pratiquer l'agriculture et laisser ces arbres pousser. Ce qui fait qu'il faut impérativement
couper
ces arbres et brûler en même temps. Et cela nous permet de lutter contre les cordes parce que la forêt est tellement coincée à tel point qu'il n'y a même pas les moyens de pénétration. Et aussi, éliminer certains insectes qui pourront paraître nuisibles et qui peuvent déranger l'agriculteur. Alors, comment on peut procéder? Et c'est ce qui a fait que chez nous ici, les tracteurs que le gouvernement nous a envoyés ne nous a rien servi, pour autant que les agriculteurs et ces tracteurs ne sont restés que des véhicules de transport. Et c'est malgré la colère du gouverneur contre cette pratique.
Oui, on a vu des gens utiliser ces tracteurs pour transporter des ciments et autres marchandises.
Oui, des marchandises. Alors, qu'est-ce que l'invité peut nous dire? Est-ce qu'il faut pratiquer l'agriculture dans une forêt il y a beaucoup d'arbres et il y a une difficulté permanente de pénétration.
Merci, voilà. Polipe. Merci, Polipe. Jean de Dieu.
Très bien, Jody. Polype pose des questions très fondamentales. Est-ce qu'est-il possible de réaliser l'agriculture dans une région forestière sans toutefois procéder par l'abattage des arbres et puis finalement arriver à l'incinération? Ce n'est pas possible dans les conditions ici. Mais ce qui est possible aussi de faire, c'est de ne pas continuer de façon permanente à faire la déforestation. Si on avait cette année, je dis,
oui,
fait l'abattage sur un hectare, mais on peut faire ce qu'on appelle une agriculture itinérante où chaque année on est obligé d'abattre les arbres, mais on peut rester sur un même espace, mettre un système de production beaucoup plus viable pour éviter de nouvelles déforestations. Et ça, c'est possible. Vous avez abattu les arbres cette année, vous avez coupé, mais vous pouvez continuer à produire. Mais le problème, c'est que les agriculteurs ne savent pas comment faut-il réaliser la production agricole sur le même espace. C'est là où l'intérêt de mettre sur pied les pratiques agroécologiques telles que l'agriculture de conservation, qu'il faut mettre sur pied pour pouvoir continuer à réaliser la production sur les mêmes espaces, sans toutefois aller vers la création de nouveaux espaces pour réaliser la production agricole. Et ça, c'est possible.
Oui.
J'ai vu, il a dit, bon, c'est pourquoi la région pour laquelle chez nous, il y a les tracteurs qui n'ont rien servi, c'était pour les transports. Là, je voudrais préciser, il y a une petite confusion qui s'est créée au moins dans les esprits aujourd'hui. Les tracteurs agricoles, lorsqu'on l'acquiert, seulement pour réaliser les travaux périodiques, comme les labours, les herçages et autres,
oui,
vous ne rentabilisez jamais votre tracteur aujourd'hui. Pour la rentabilité d'une telle machine, vous devez l'affecter à d'autres activités. C'est reconnu, c'est ça. Les tracteurs, en dehors des travaux agricoles, ils doivent servir au transport de produits agricoles. Et ça, c'est très important. Sinon, votre tracteur ne sera jamais rentable. Vous imaginez, aujourd'hui, vous allez au plateau de Bateke. Les labours et les ressages se font pendant 3 mois. Et le reste du temps, les tracteurs font quoi? C'est cette réflexion qui a manqué dans la politique.
On a attrapé des gens au Maniema qui utilisent les tracteurs pour transporter d'autres machins, pas les intrants agricoles, mais des sacs de ciment et autres marchandises. Ça c'est dévier un peu les tracteurs des...
Non, ça dépend, mais finalement, je dis, si c'est pour la rentabilité de la machine, eh bien, les tracteurs peuvent être affectés au transport d'autres produits, dans l'optique qu'ils soient rentables. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un tracteur. Vous faites, les tracteurs travaillent pendant 3 mois. Nous avons 12 mois pendant l'année. Et le reste du temps, les tracteurs font quoi? Il faut attendre l'année qui vient pour que les tracteurs soient en activité. C'est cette réflexion qu'il fallait faire bien avant. La rentabilité d'une entreprise de mécanisation, c'est important. Si vous n'avez pas pensé à la rentabilité, je dis, c'est pourquoi vous voyez les tracteurs. Les gens ne sont même pas capables de pouvoir s'acheter un pneu. Les gens ne sont même pas capables de s'acheter même du carburant pour faire...
Mais on va les rentabiliser pour développer les activités agricoles.
Bien sûr.
Et non pas pour les intérêts d'un individu qui utilise ça à ses propres fins.
Non, je dis, je ne sais pas comment les tracteurs ont été distribués d'abord en République. Si les tracteurs ont été confiés, par exemple, aux organisations du développement, mais l'organisation... dans le cadre de sa politique pour rentabiliser ses machines,
oui,
elle peut utiliser les tracteurs pour les transports d'autres produits pour que la machine soit rentable. Parce que seulement avec les activités agricoles, il est pratiquement impossible de rentabiliser un tracteur.
D'accord. On va accueillir Clément de Bukungu. Bonjour Clément.
Bonjour Jody.
On vous écoute.
Oui, je voulais un peu... au moins 3 petites préoccupations. La première préoccupation, c'est par rapport à l'agriculture écologique. Je voulais un peu demander à l'invité, tout ça vraiment c'est pour protéger la nature, mais il y a les pollueurs payants. Les pollueurs payants versent l'argent, et cet argent dont les gens qui subissent ça ou bien qui protègent maintenant cette forêt ne bénéficient pas donc de cet argent que les pollueurs payants maintenant donnent. Alors qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Parce que ici chez nous, prenons par exemple quand il évoque le problème des tracteurs et consorts. Bien sûr, il y a eu les tracteurs qui ont été envoyés dans cette province. Mais ici, nous sommes en pleine forêt équatorienne. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce sont des politiciens qui se sont partager maintenant les tracteurs. Et ça n'a pas servi maintenant au service de l'agriculture. Et en plus de cela, l'agriculture, c'est resté comme une théorie ici chez nous, donc dans l'arrière-pays. Parce que les paysans ne sont pas accompagnés par le service de l'agriculture. On nous parle seulement donc des plateaux de Bateke qu'on sort dans la ville de Kinshasa. Mais ici chez nous, donc les paysans ne sont pas accompagnés par les agriculteurs, et par le service de l'agriculture. Au moins, donc, les services comme la FAO et consorts qui viennent, donc, de temps en temps accompagner le paysan. C'est comme si le service de l'agriculture dans l'arrière-pays, vraiment, c'est inopérant. Alors vraiment, c'est un peu ça mon regret, mais l'unique question que je voulais demander à l'invité, seulement l'argent des pollueurs payants. Qui bénéficie vraiment de cet argent? Merci Jody.
D'accord, Jean de Dieu.
Merci Jody. Je crois qu'avant de répondre à la question de notre ami Clément, on pourrait aussi répondre à notre ami Mavé qui a posé la question de savoir entre l'agriculture surbrûlée pratiquée ici chez nous et l'agriculture industrielle, quel est ce système et qui a beaucoup d'impact sur l'environnement. Je crois que la réponse est très simple. L'agriculture industrielle contribue beaucoup au dégradement du climat et l'agriculture industrielle a beaucoup plus de conséquences sur la santé des consommateurs. Si vous voyez beaucoup aujourd'hui en Europe, un enfant qui est né, qui consomme une pomme de terre et qui a été produit dans les conditions où on a fait 25 pulvérisations, aujourd'hui à 20 ans, et l'homme il est déjà foutu. Hein. C'est pourquoi on voit de loin, on est le mariage pour tous. Tout ça c'est la conséquence de toute cette politique agricole qui n'a pas pris en compte la santé des consommateurs. Donc là nous sommes clairs, mais notre système de production qui est l'agriculture sur brûlis doit évoluer, va aller vers une transition écologique si nous voulons demain assurer la sécurité alimentaire des populations en République démocratique du Congo.
Oui.
Alors, notre ami Clément pose la question de savoir, mais les gens polluent en Europe avec l'agriculture industrielle, mais l'argent, et la politique du pollueur payeur, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Je crois qu'il y a ce qu'on appelle le mécanisme RED, il y a beaucoup de mécanismes au niveau international pour compenser les initiatives locales ou les initiatives nationales qui contribuent et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à l'équilibre climatique.
Oui.
Et là, ça dépend au niveau national de chaque État de mettre pouvoir de politique nationale pour pouvoir et avoir accès à ces financements internationaux et mettre le pays sur la voie du développement de l'agriculture tout à fait durable.
Alors on retient pour terminer, pour réaliser pour l'agriculture tout en protégeant l'environnement, vous avez dit il faut une politique agricole, il faut mettre en place une bonne politique agricole et recourir à des techniques telles que l'agroforesterie et l'agriculture de conservation.
Oui.
Il n'y a que les deux.
Il n'y a pas que les deux.
Il y en a plusieurs techniques.
Il y en a plusieurs. Vous avez la polyculture, vous avez l'agro-silvo-pastoral, vous avez l'agriculture intelligente face au changement. Il y a énormément, beaucoup de pratiques. Il y a l'agriculture biologique qui doivent être utilisées pour aller vers la production agricole. Mais comme je l'ai dit, il faut toujours éviter de croire que les questions agricoles, ce sont les questions des techniques de production. Quand vous faites cette simplification, c'est comme ça que beaucoup d'initiatives que nous sommes en train de faire n'ont jamais donné des résultats. Il faut politiser les questions agricoles. Quand on politise les questions agricoles, vous avez des objectifs qu'il faut atteindre et avec les techniques que vous devez, vous atteignez les objectifs. Mais le fait, voilà, on a distribué, comme les gens disent, on distribue les tracteurs. Ce n'est pas une politique agricole. Ça, ce sont des techniques de production. On a besoin de machines pour produire. Et il ne faut pas s'attendre à des résultats. Les initiateurs de ce qu'on appelle la politique verte ont mis en place une politique. Mais pour atteindre cette politique, je dis, il n'y a pas suffisamment beaucoup de temps. On va en discuter dans une
émission. Dans une prochaine émission, bien sûr.
La révolution, les soubassements de la révolution verte, ça on en parlait. Hein. Les gens ont
mettre en place une politique, ça veut dire, c'est dire par exemple que d'ici 20 ans, d'ici 10 ans, nous devons atteindre tel niveau de production agricole.
Exact, je dis. Pas seulement tel niveau de production agricole. Sur le plan social, cette production devrait servir à quoi? Sur le plan économique, qu'est-ce que ça va faire? Sur le plan environnemental, ça c'est très important.
C'est très important. On aura l'occasion. Très bien. On a pris assez de temps.
Il n'y a pas
de prochainement, nous allons venir, c'est ça, pour parler de comment mettre en place une bonne politique agricole.
Merci,
et vous aurez l'occasion d'étudier. Merci à Jean-Lédieu Minengou. Je rappelle que vous êtes expert en environnement. À la prochaine.
Merci, Jody.